Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les crypto bros versus les hedge funds versus la constitution d'une part, Apple qui annonce des kits de réparation totalement incroyables d'autre part, et toute la suite de l'actu tech, c'est dans le rendez-vous tech tout de suite. La suite de l'actu tech, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous accueillir pour cet épisode où on va parler de technologie, d'internet et de gadgets, des sujets extrêmement intéressants aujourd'hui. Et pour m'aider à les débroussailler, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir d'une part Gaël Girardeau. Comment ça va Gaël ? Est-ce que tu es en forme ?
Salut Patrick, bah écoute, très très en forme, tu nous donnes tellement d'énergie là,
on peut oui, en forme. C'est ce qu'il faut, tu sais, c'est ce que je raconte parfois dans mes EMA, mes FAQ ou mes petites confidences avec les auditeurs. Avant le début de l'émission, je suis à peu près comme ça, bonjour, comment ça va ? Et puis quand l'émission commence, c'est yeah, l'énergie qui nous est amenée par le matin, et le matin est sponsorisé par Pascal Forgette qui nous vient du Canada. Il est quelle heure là ? Il est 6h du matin, c'est ça de ton
il
côté
Il est 6h du matin, il fait moins 3 degrés et ton énergie, celle de Gaël combinée, font que je suis peu vêtu, la fenêtre ouverte et j'ai chaud comme c'est pas possible.
C'est le miracle du rendez-vous tech. Écoute, il fait moins 1 ici en Finlande, donc on n'est pas si
loin.
Il a neigé cette nuit, on s'est levé et c'était tout blanc dehors. Évidemment, mon fils était hyper content. Il a dit « Ah, de la neige, on va pouvoir faire des boules de neige et des bonhommes de neige !» Tout ça, c'est des choses que je ne connaissais pas quand j'étais à Paris. Lui, il grandit avec ça. Il grandit aussi avec des histoires de crypto qui vont faire peut-être son quotidien, ou peut-être que tout sera effondré dans pas si longtemps. Il grandira aussi dans un monde où Apple fournit des kits de réparation aux particuliers. C'est invraisemblable. On va en parler dans une seconde. Avant ça, je voudrais remercier Emmanuel Estevez, Hugo, Costorm, Olivier Le Petit, Ludo L, Gilles et Dreamy Kage, en plus du producteur de cet épisode, Derek Herbe. Merci à vous tous qui soutenez l'émission sur patreon.com/rdvtech. C'est grâce à vous que l'émission existe et je vous suis extrêmement, extrêmement reconnaissant. Pour les infos de la semaine, j'ai mis les crypto bros qui achètent la constitution, mais pas vraiment finalement, ils se font coiffer au poteau par l'institutionnalisme en la personnalité des hedge fund managers comme Ken Griffin. Et il y a aussi l'annonce des kits de réparation Apple, qui sont tous les deux des sujets hyper intéressants. Je me demandais par lequel on va commencer, vous savez quoi ? On va commencer par la controverse, l'adversité, parce que dès qu'on parle de crypto ou de DAO ou de NFT, ça illicite chez l'audience et chez les auditeurs des réactions extrêmement, je vais pas dire violentes, mais assez fortes. Il y a des gens qui détestent ça, qui trouvent que c'est de l'arnaque totale, et il y a des gens qui sont convaincus que c'est l'avenir des institutions financières et peut-être même de la société. Et ce sujet illustre bien tout ça, cette dualité, cette opposition. Et donc, je vais vous en parler. Entre parenthèses, on ne va pas utiliser les timers qu'on utilisait à l'épisode précédent. Là, il n'y a pas eu de dualité et d'opposition. Les retours étaient assez clairs. Les timers, ça n'est pas forcément du goût de l'audience. Il y avait une sorte de consensus. Pour une fois, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on a testé, c'était rigolo, dans l'épisode précédent, de faire des timers pour mes explications et pour les débats qui suivaient mes explications sur les différents sujets. Et bien, pour une fois, l'Internet était d'accord. C'est pas à reproduire. Personne n'a aimé. Et c'est rigolo parce que j'avais des retours de certaines personnes dont j'avais l'impression qu'elles me disaient « Patrick, tu parles souvent trop, il faut laisser un petit peu plus de temps, il faut que tu parles un petit peu moins, etc. » Et les retours que j'ai eus suite à cette histoire de timer, c'était au contraire, mais non, on est là pour t'écouter, on est là pour que tu expliques. Et c'est vrai que je fais souvent ça dans mes explications qui sont, enfin, dans mes discours qui sont trop longs et qui prennent trop de place et qui laissent peu de place aux autres. Je m'en excuse par avance. Eh ben, il y a beaucoup d'explications. Et donc, c'est encore une fois le fait que peut-être que écouter ceux qui parlent le plus fort, c'est pas toujours une bonne idée. Mais donc, l'Internet s'est mis d'accord. Les timers, c'est pas une bonne idée. Donc, au revoir les timers, en tout cas avec les petites cloches audibles. Et on revient à Patrick qui parle trop. On a un petit jingle pour ça en préparation aussi. Mais donc, on va faire l'explication sur ce truc auquel vous n'avez rien compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Crypto Bros versus Hedge Funds versus la Constitution ? J'explique. Il y a quelques jours de ça, la maison de vente aux enchères Sotheby's a mis en vente une copie de la Constitution américaine. C'est une copie imprimée, mais d'origine, qui est l'une des, je crois, 13 copies existantes qui avaient été donc annoncées comme étant mises en vente dans les semaines qui venaient. Suite à ça, il y a une DAO qui s'est formée. Alors, il y a plein de choses à expliquer, hein. Je suis désolé d'avance, mais DAO, c'est quoi ? C'est la première chose que vous allez vous poser. Eh bien, une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization, dont on avait déjà parlé il y a quelques semaines dans l'émission. C'est un principe vraiment intéressant d'organisation codée dans une blockchain. En gros, ça peut servir à faire à peu près n'importe quoi dans la blockchain, de manière publique, ouverte. Ça a ses désavantages aussi, on ne va pas entrer dans les détails tout de suite, mais en gros, ça peut être une association, une société, ce genre de choses, dans la blockchain, en tout cas en théorie. Eh bien, il y a une DAO qui s'est formée pour acheter cette constitution. Il s'appelait, de manière assez appropriée, Constitution DAO. Et ils ont levé de l'argent par crypto-monnaie, par l'intermédiaire de cette DAO, dans l'idée d'acheter en commun cette copie de la Constitution. Entre parenthèses, elle était estimée à environ, je crois, 15 millions de dollars ou 20 millions de dollars à peu près. Et la précédente avait été vendue il y a une ou deux décennies pour genre 200 millions de dollars. Donc déjà, c'était un gros morceau. La DAO a levé 40 millions de dollars. Dans le but d'acheter cette constitution. Et là, vous vous dites, mais attends, DAO, blockchain, crypto, ça veut dire quoi ? Ils sont plusieurs milliers, je crois que c'était quelque chose comme 1500 personnes, avoir mis leurs biens en commun pour acheter cette copie de la constitution. Mais ça veut dire quoi ? Qui va l'avoir ? Qui va en disposer ? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un morceau de la Constitution ? Ils vont la découper en 1500 morceaux ? Évidemment, non. Ils ont établi les conditions, ça fait partie de la DAO, ils ont établi les conditions de l'acquisition de la chose et ils ont dit les parts qui sont représentées par un token qui s'appelait People, je crois, qui donnerait droit à des droits de vote. Les détails étaient à définir, des droits de vote pour décider ce qu'on fait de la Constitution. Et à ce stade, enfin, avant la vente de la Constitution, ils en étaient arrivés à l'idée de l'exposer publiquement dans un musée avec une petite mention. Cette Constitution a été achetée par Constitution DAO et les DAO et les cryptos, c'est le futur de la finance et ça va être incroyable, ça va tout révolutionner. Bon. Le retournement est arrivé au moment de la vente, puisque, malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à acheter la Constitution. 40 millions n'ont pas suffi, alors qu'elle était estimée à 20 millions. Et elle a été vendue pour 43,2 millions de dollars à une personne qui, initialement, n'était pas connue publiquement, ne s'était pas annoncée. Peu de temps après, on a découvert le poteau rose, et là, c'est digne d'un retournement de situation, on pourrait dire de, je ne sais pas, Dallas, si on a mon âge, et peut-être de, je vais chercher une autre série un petit peu plus jeune, si on n'a pas mon
Dallas
âge.
Dallas a été refait hein, récemment. Donc,
c'est vrai que... Ah bah, je ne savais ouais. Même pas. Riverdale, voilà, si on est un petit peu plus jeune. Eh bien, l'acheteur final était Ken Griffin. Ken Griffin, ça ne vous dit peut-être rien, mais il faut revenir au début de cette année, c'est vraiment un roman cette histoire, il faut revenir au début de cette année, au moment où les Crypto Bros ont fait monter le cours de l'action GameStop, notamment, mais pas que. Ils ont donc fait monter le cours de l'action pour contrecarrer les plans des gens qui pariaient contre l'action GameStop. Vous vous souvenez, on avait fait toute une explication de ce qui se passe quand on short un stock, qu'on achète, je ne me souviens plus du terme en français. Eh bien, Ken Griffin était l'une des personnalités du monde de la finance, qui est le chef de Citadel, qui est un hedge fund, donc un fonds d'investissement. Et il avait donné de l'argent aux différents fonds qui avaient été pris dans la tourmente à cause de cette histoire, en pariant contre GameStop. Et GameStop avait été artificiellement monté dans sa valeur boursière par Reddit et toutes ces choses-là. Et donc, il avait donné de l'argent à Melvin Capital notamment, et Citron, je crois, enfin, deux de ces choses-là, pour les sortir d'affaires. Et donc, il était devenu l'ennemi public numéro un de Reddit et de la communauté des crypto-monnaies et du monde de la crypto. Eh bien, c'est lui qui, secrètement, a acheté la Constitution pour 3 millions de dollars de plus que ce qu'avait levé Constitution DAO, les coiffant au poteau et du coup leur, entre guillemets, volant la Constitution. C'est pas fini, ça continue, je vais vous expliquer ça dans une seconde. Et donc, petit problème de grésillement réglé, vous ne l'avez pas entendu dans le podcast, mais il y en avait un dans le live, donc vous savez qu'on est en live tous les mardis midi à midi sur Twitch. Donc bref, tout est réglé de ce côté. Ce que je voulais conclure sur cette histoire, c'est que suite à ça, le Constitution DAO est passé des rêves de grandeur et de combat contre l'institutionnalisation de la finance et des hedge funds et d'avoir réussi quasiment l'impossible au cauchemar. Bon, j'exagère un petit peu, mais tout de même, parce que une fois qu'il n'avait pas réussi à acheter la Constitution, c'était un petit peu compliqué pour passer à ce qu'il y avait après, et parce que personne ne savait ce qu'il y avait après. Et notamment, l'un des gros, gros problèmes dans cette histoire, c'est les gas fees. Est-ce que vous savez ce que c'est les gas fees dans le monde des cryptos? C'est les frais de vente, transfert, achat, etc. de crypto. Ils ont basé, comme la plupart de ces tokens, ils utilisaient le réseau Ethereum et ils ont acheté en Ether. Le problème, c'est que la plupart des utilisateurs, en moyenne, visiblement, ils avaient acheté environ 200 ou 300 dollars de crypto pour participer à cette chose-là. Et les gas fees, les frais, peuvent être vraiment élevés. En fonction de la congestion du réseau Ethereum, ça peut monter très très haut. On ne parle pas de quelques cents ou quelques dollars même. Ça peut communément monter à 50, 70 dollars, voire plus haut. Ça peut monter à plusieurs centaines de dollars les frais pour conclure une transaction. C'est une chose que peu de gens savent. Et quand on parle de centaines de milliers de dollars de transfert, ce n'est pas très grave. Mais quand on achète un morceau de constitution à 200 dollars, pour mettre son argent, il faut payer 75 dollars. Si on attend parfois, au bout de quelques minutes, quelques heures, ça peut redescendre à quelques dollars. Hein. Mais on peut payer 70 dollars, 100 dollars, 150 dollars pour mettre l'argent. Et ensuite, pour le ressortir, possiblement payer autant. Et du coup, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent, ou potentiellement vont perdre beaucoup d'argent s'ils sortent leur argent maintenant. Enfin, beaucoup d'argent. Disons que l'argent qu'ils ont contribué risque d'être perdu, si c'est une petite somme. En plus de ça, je vais vous passer tout le drama sur ce qu'ils vont faire de cet argent et le fait que le token People a été, pendant un moment, était censé être supprimé, remplacé par We the People, un autre token. Mais bon, enfin bref, tout ça, peu importe. Mais voilà l'aventure de Constitution DAO. Je suis curieux de savoir comment vous interprétez toute cette histoire. Pascal, à ton avis, Constitution DAO, c'est un succès quand même, même s'ils se sont plantés, ou c'est une vaste blague? Je te donne des choix un peu binaires hein, quand même. Mais,
je pencherai du côté blague parce que ça relève, ça a démarré comme une blague sur Twitter tout d'abord. Donc la blague a pris vie et a gonflé, est devenue une vraie tentative d'acheter la Constitution. Moi, ma grande question, c'est sur le défi d'acheter un bien physique en groupe qui, comme tu le disais, l'emporte chez lui ensuite. Est-ce que c'est au pourcentage de sa contribution? Qui va payer pour le stockage, l'entretien, les assurances, parce qu'ensuite, ça devient une responsabilité de conserver ce document historique. On peut pas simplement c'est pas un frais unique. Il faut ensuite assurer la gestion. Est-ce que les donateurs vont continuer d'offrir? Ce que je vois, par exemple, c'est que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour les levées de fonds, pour des œuvres de charité, des causes. Si, avec la blockchain, on peut s'assurer que quelqu'un fait quelque chose, on lui remet les fonds, ça pourrait engager des personnes à faire des actes intéressants pour, dépolluer ou sauver des animaux en difficulté ou quelque chose comme ça. Je sais pas si...
Je sais pas si on a besoin de la blockchain pour ça.
Exactement, tout à fait, ouais. Tout à fait. Sauf que ça pourrait être une condition automatisée avec un contrat intelligent, ce concept un peu ouais. Ésotérique.
Disons que c'est plus, c'est plus public que d'autres types d'organisations, c'est sûr. Sur la question de qui s'en occupe après, effectivement, c'est une grande question parce que ça a commencé, comme tu le disais, un petit peu comme une blague. Ça s'est organisé, ça s'est emballé. Ils ont quand même levé 40 millions de dollars. Mais s'ils l'avaient acheté, c'est pas juste. Je suis sûr qu'ils auraient pu, en le louant, tu vois, ça aurait été possible une fois que tu as un objet qui a cette valeur historique c'est un élément important de l'histoire américaine. Bon, bah, tu peux en sortir de l'argent, mais il faut que quelqu'un se dise, bah, ok, moi, je vais m'y coller parce que c'est.
Exactement. Exactement. Un boulot, quoi. Et quand quelque chose est déresponsabilisé, quand quelque chose est comme ça très ouvert, il faut que quelqu'un prenne une responsabilité, il faut qu'il y ait un vote éventuellement. Et la chose qui peut toujours arriver, c'est que des trolls décident de faire quelque chose, on met le feu à cette constitution, et si la majorité des gens qui participent décident que c'est ça qu'il faut faire, ça peut se produire.
Bon,
et
après,
là, c'est là tout le danger.
Oui, oui, mais si c'est ce qu'ils ont décidé, ils l'ont acheté, ils l'ont payé, à la limite, oui, c'est un problème pour l'histoire, mais techniquement, ils pourraient. Ceci dit, les conditions étaient inscrites dans la DAO. Hein. Ils avaient dit, on va le rendre public, le prêter à différents musées, il devrait être visible publiquement. Donc, ils avaient quand même décidé des règles de base, même si les détails n'étaient pas établis, de l'utilisation du document. Gaël, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette histoire? Ça te fait rire? Ça t'inquiète? Ça t'inspire, peut-être? Il y a peut-être quelque chose de positif à voir là-dedans?
Déjà, juste, je vais rejoindre Pascal, effectivement, sur les dérives potentielles. À partir du moment où c'est décentralisé, il y a une déresponsabilisation. Et effectivement, on prend l'exemple, ils veulent le brûler. Ça a moins d'impact quand tu as mis 200 $. Hein, et tu dis, ouais, moi, je suis prêt à participer à 200 $ pour brûler la Constitution. Quand tu mets 43 millions à toi tout seul, évidemment, tu as plus une responsabilité, donc tu le ferais peut-être pas. Donc effectivement, le fait que ça soit décentralisé déresponsabilise et te permet de faire des choses qui ont des dérives que tu n'aurais pas si tu es tout seul. Surtout que si tu es tout seul, on sait qui tu es, on sait 43 millions qui a mis 43 millions. Quand tu as 1500 personnes, tu ne vas pas aller chercher les 1500 personnes. Donc cette déresponsabilisation est importante. En revanche, effectivement, c'est parti d'une blague. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils n'ont pas réussi, donc c'est plutôt intéressant qu'ils n'aient pas réussi, mais au moins, ça permet de soulever les questions et de se dire, OK, on voit que ça pourrait arriver, ça met ça, je dirais, la discussion publique, de savoir, du coup, maintenant, tout le monde commence à en parler, tout le monde commence à y réfléchir, tout le monde commence à se poser les questions sur ça, parce que ça devient réel, en fait, les crypto-monnaies qui peuvent acheter des biens physiques comme ça. Donc, je trouve ça, en tout cas, très intéressant et passionnant à discuter. On pourrait en discuter pendant des heures sur les dérives, les bienfaits, effectivement, sur des levées de fonds, se dire, c'est pour ça que je pense que les fonds d'investissement n'ont pas forcément envie que ça arrive, hein, parce que ça
on en parle beaucoup,
pour eux.
On en parle beaucoup des levées de fonds, effectivement.
Bien sûr. Bah, effectivement, et ce type de groupes peuvent être des nouveaux leveurs de fonds pour des entreprises. Alors, Pascal parlait effectivement de peut-être d'associations, mais ça peut même être des entreprises qui ont du mal à lever de l'argent de manière générale parce que les fonds ne leur font pas confiance. Et là, il y a peut-être une possibilité, une ouverture pour d'autres startups. Lever des fonds en crypto, effectivement, ça commence à se faire. Et je pense que pour les fonds d'investissement, ça doit leur faire peur. D'où cette petite guéguerre.
Ouais.
À 43 millions quand même. Hein. 43 millions la guerre, le petit pari.
Ouais, clairement.
Mais c'est intéressant. Ouais.
C'est
ça ouvre le débat.
C'est ça qui est le plus intéressant, parce qu'on peut se focaliser vraiment en fonction de l'angle qu'on veut prendre sur l'idée que ils sont plantés et maintenant c'est la Bérésina et personne peut, enfin on peut sortir notre argent, mais on n'avait pas compris que on n'avait pas acheté une part de la propriété de la Constitution mais seulement des droits de vote, et en plus ils changent les tokens et machin. On peut le voir comme ça et se dire c'est les choses qui se c'est la débâcle maintenant que ça n'a pas fonctionné, mais on peut aussi voir les choses de l'autre côté et se dire ils ont presque réussi. Rendez-vous compte, ils ont levé en quelques semaines 40 millions de dollars. Alors oui, on aurait pu dire, ils auraient pu faire un GoFundMe et puis passer par un compte en banque. Et puis... Mais là, ils n'en ont pas vraiment eu besoin. Ils ont tout fait de manière décentralisée. Et c'est une possibilité qui n'existait pas exactement de cette manière avant. J'ai entendu, je vais faire un petit parallèle pour faire un autre parallèle. J'ai entendu beaucoup de gens parler du métavers en disant, suite aux annonces de Facebook d'il y a quelque temps, en disant « Ah mais c'est ridicule, ça n'a aucun sens », en comparant les choses, je l'avais déjà dit, mais en comparant les choses à ce qui existe aujourd'hui, en disant « Bah le métavers, on l'a déjà, il y a déjà ceci, il y a déjà cela », ça m'énerve au plus haut point parce que, oui, peut-être que le métavers, ça sera un coup d'épée dans l'eau, c'est tout à fait possible. Mais la manière dont on en entend parler, c'est un petit peu comme regarder l'avènement des smartphones, par exemple, et dire oh, « ben, enfin, le téléphone, on a déjà regardé, tout le monde a un téléphone des PTT, vous voyez, dans les années 80, tout le monde a un téléphone des PTT dans la maison, et on a même des trucs sans fil, regardez, il y a un téléphone sans fil que vous pouvez prendre partout dans votre maison tant que vous êtes à 20 mètres de la base. C'est bon, ça existe déjà, les téléphones sans fil, voilà, le téléphone, tout le monde connaît. » C'est un manque de vision, un manque de compréhension de ce qu'est possiblement le métavers, qui est presque criminel quand on l'entend dans des analyses. Ça ne veut pas dire que ça va réussir le métavers ou que ça sera intéressant, mais il faut bien comprendre de quoi on parle. Là, c'est un petit peu la même chose, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur les échecs de ce genre d'initiative et qui ne prennent pas en compte les choses différentes que ça fait ou que ça peut permettre. Et oui, au final, c'est rigolo parce que Ken Griffin a pris sa revanche sur les petits trolls de Reddit et il leur a soufflé la constitution avec 3 millions de plus. D'ailleurs, il savait qu'ils avaient levé 40 millions, il aurait pu donner 40,5 millions et ça aurait suffi. Mais bon, bref, peu importe. C'est rigolo, mais... Ce que permet ces types d'organisations-là, même si c'est dangereux, même si c'est même si c'est encore à une étape où on découvre les problèmes potentiels que ça pose, la manière dont ça peut fonctionner, les soucis sérieux comme les gas fees que les gens découvrent qui sont effectivement un problème, eh ben, il n'empêche que c'est un groupe, comme avec l'histoire de GameStop, c'est un groupe d'individus sans véritable structure rigide qui s'est réuni et qui a, par un système financier entièrement décentralisé, réussi à entrer en concurrence avec l'establishment de Wall Street. Et ça, ça devrait au minimum forcer la considération sérieuse de la chose. Et je vois beaucoup trop de gens balayer tout ça d'un revers de la main en disant oh, « c'est des cryptos qui disent, qui font n'importe quoi, et voilà, maintenant ils sont bien dans la merde avec leurs gas fees. » Et c'est un petit peu myope comme vision, je trouve. Donc,
après, tu crois que ce n'est pas de la communication ? Moi, je pense, c'est aussi une volonté de communication d'essayer de les décrédibiliser, parce que je pense que, fondamentalement, ceux qui sont vraiment touchés commencent à y voir quelque chose, une menace sérieuse.
Je crois qu'il n'y a pas que ça, bien sûr. Ken Griffin est très énervé, il s'est fait dans l'histoire de GameStop. Et puis, il a pas forcément tort. Hein. GameStop, la valeur de GameStop, même si on critique les marchés financiers, il y a quand même, a priori, un minimum de valeur derrière. L'histoire avec GameStop, c'était complètement juste pour faire chier les marchés financiers que la valeur s'est envolée. Donc, on peut comprendre qu'ils s'inquiètent de l'histoire de la valorisation de ces avoirs. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent dans l'audience, hein, j'ai des retours régulièrement qui disent bah, les NFT ça veut rien dire, les DAO ça repose sur rien, les cryptos c'est ingérable et ça consomme trop, ce qui est pas faux. Hein. Tous ces points sont justifiés. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans les univers tech qui sont pas dans l'univers de la finance qui, bah, comme je disais, le dismiss, le balaye d'un revers de la main pour des raisons qui sont pas non valides. Mais qui occulte les autres aspects de ces affaires. Donc, je ne crois pas que ça soit que le monde de la finance, même si, oui, ça ne les arrange pas beaucoup, eux, non plus. Tu as raison sur ce point, Gaël. Mais bon, donc voilà pour cette histoire de crypto-constitution. Ça n'a pas réussi cette fois-ci. Peut-être que ça réussira un jour. Toujours dans le domaine des cryptos, je vais mentionner deux choses, ou trois. D'abord, il y a un artiste qui a créé le NFT Bay. C'est un site où on peut télécharger tous les NFT du monde, toutes les images en NFT du monde. Et ça a bien fait rire beaucoup de gens parce qu'on se dit, ah ben voilà, les NFT, vous payez très cher pour avoir une image. Et là, sur le site de piratage, en quelque sorte, qui n'est pas vraiment un site de piratage, mais qui est un site où on peut télécharger 15 terabits de NFT en JPEG. Et beaucoup de gens disent « Ah bah voilà, ah ah ah, j'ai pu télécharger ton JPEG ». C'est très mal comprendre ce qu'est un NFT en fait. Les gens, c'est penser que quelqu'un qui achète un NFT le fait en pensant que ça ne va pas être copiable. Bien sûr que les gens qui achètent des NFT savent très bien qu'un JPEG, on peut le copier. Ils ne sont pas complètement idiots non plus. Peut-être qu'ils sont irresponsables avec leur argent, ça c'est possible. Mais ils savent bien qu'un JPEG, ça se copie. Et donc, c'est pas ce qu'ils achètent. Ils n'achètent pas le JPEG en lui-même. C'est le fait de savoir que sur le papier, quelque part, il est écrit que c'est toi qui as payé pour. Et vous pouvez peut-être penser que c'est ridicule, mais c'est pas le JPEG qu'ils achètent. C'est, entre guillemets, le droit à la propriété unique du droit de ce JPEG. Bref, on pourra reparler de ça ailleurs. Coup de tonnerre à Los Angeles, le Staples Center, qui est un grand stade de sport, a été renommé le Crypto.com Arena. Là aussi, c'est évidemment un site de crypto, vous vous en doutez. Et là encore, beaucoup de gens ont dit, c'est quand même 700 millions de dollars pour 20 ans. Ils ont beaucoup payé Crypto.com. Et là aussi, beaucoup de gens ont dit, mais enfin, Crypto.com, qu'est-ce que c'est que ce truc ridicule? Puis comment on va l'appeler? On va l'appeler le Crypt. La Crypt, oui, effectivement, c'est peut-être pas hyper heureux comme nom. Mais c'est oublié bien vite que Staples Center, ça vient de la société Staples, qui est une société qui vend des fournitures de bureaux, qui a des magasins qui vendent des fournitures de bureaux. C'est eux qui avaient nommé le stade jusque-là. Et Staples, ça veut dire agrafe. Ils s'appellent comme ça parce qu'ils vendent des fournitures de bureaux, dont des agrafes. Donc, on est passé du centre agrafe au centre crypto. Alors, peut-être que crypto, c'est plus ridicule, mais voilà, je ne pense pas que Staples, c'était particulièrement glorieux. Et enfin, El Salvador a, vous savez, le pays où le Bitcoin est devenu une des monnaies officielles, a décidé de construire une Bitcoin City près d'un volcan pour utiliser l'énergie géothermique pour miner. Et ils sont en train de lever 1 milliard de dollars en Bitcoin avec 500 millions pour miner et 500 millions pour acheter plus de Bitcoin. Et dans cette ville, ils vont la construire en forme de Bitcoin et il n'y aura ni taxes, ni impôts, ni quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas comment ils vont payer pour les routes, mais bon, c'est la ville des Bitcoins au Salvador. Ça, c'est, disons que même moi qui essaye de trouver les côtés sérieux d'un petit peu tout ça, j'avoue que là, j'ai un petit peu plus de mal. Sur ces trois sujets, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui vous a marqué, et puis après, on parle d'Apple.
Un mot pour le plan du El Salvador, c'est un plan digne de James Bond.
Ouais,
faire de la crypto-monnaie avec un volcan, c'est... J'entends le tan-tan, tan-tan-tan. C'est assez, ça me semble un peu farfelu.
On est d'accord. Parlons un peu d'Apple, tiens. Il y a pas si longtemps que ça, Apple se battait fermement contre la possibilité de réparer ses appareils, et en particulier les iPhones. Vous savez qu'ils sont très difficiles à réparer. Beaucoup de pièces sont souvent collées, très fragiles. Et même au niveau logiciel, ils ont fait marche arrière généralement, mais il y avait des blocages qui étaient mis en place. Si on changeait certaines parties de l'appareil avec des pièces qui n'étaient pas officiellement vendues par Apple, eh ben, ça pouvait bloquer certaines fonctionnalités. Pour des questions de sécurité, selon eux, et possiblement on pourrait arguer du fait que c'est effectivement le cas, mais c'était aussi bien pratique pour préserver leur monopole sur ces affaires-là. Eh bien, ils ont fait marche arrière sur ça depuis un moment, mais la grosse annonce, grosse annonce de la semaine dernière, c'est le fait qu'ils vont désormais vendre des kits de réparation pour les iPhones, alors uniquement pour les iPhone 12 et 13 aujourd'hui. Ça va être étendu au Mac l'année prochaine. Je crois que c'est uniquement aux US aujourd'hui, mais ça va s'étendre dans le reste du monde, on n'en doute pas, relativement vite. Et donc, c'est un changement, un retournement de situation complet, parce que l'impossibilité de réparer les appareils Apple en particulier, mais la tech en général, est une source de débats interminaux sur le droit à la propriété, la durabilité des appareils, parce que si on ne peut pas les réparer, on en achète un nouveau, on jette l'ancien à la poubelle, ou de préférence on le recycle, mais en tout cas ça fait peut-être changer d'appareil à un moment où on aurait pu simplement changer la batterie ou l'écran et continuer à utiliser l'ancien. Ça coûtait très cher parce que c'était plus difficile. Là, Apple va vendre des kits aux particuliers. Hein. Alors bien sûr, ça restera très difficile à faire, mais ça sera possible. Il y aura des manuels qui étaient des choses extrêmement difficiles à obtenir, des manuels pour changer les parties, des manuels d'utilisation. Il précise bien, vaut mieux pas le faire vous-même, mais si vous voulez, vous pouvez. C'est un changement radical dans la philosophie d'Apple. Il y avait des investisseurs, un groupe d'investisseurs qui se posaient la question sur ces sujets. Il y avait, on va dire d'une manière générale, l'air dans la société était plus tellement favorable à ceux qui disaient on ne veut pas que vous répariez nos appareils pour des questions de durabilité, comme on le disait, et puis de droit à la réparation, qui est un débat vraiment important dans le monde de la tech. Et Apple avait toujours été opposé à l'idée. Et là, tout à coup, d'un instant à l'autre, ils changent d'attitude du tout au tout. Ils font un 180 degrés et ils vont vendre des kits. Très inattendu quand même, cette histoire. Pascal, je t'entendais hocher de la tête au début du sujet.
J'ai tombé de ma chaise quand j'ai vu la nouvelle communiquée d'Apple. Grande question, est-ce que Apple va être de bonne foi dans cette manœuvre-là? Est-ce que les pièces vont être à un prix raisonnable? C'est évident que si les pièces Apple officielles coûtent très très cher, ça pourrait être peu avantageux de faire une réparation, écologique et tout, mais pas très avantageux pour le consommateur. Est-ce que Apple, et c'est ça que j'espère, va lancer des téléphones qui sont conçus pour être réparés, donc sans pièces collées, peut-être avec des vis, inspirés peut-être du Fairphone? Et il faut pas oublier qu'Apple était sous la pression des régulateurs pour justement là, mettre quelque chose de plus recyclable pour la durabilité, pour spécialement l'Union européenne, pour les contraintes qu'ils ont, pour s'assurer que le iPhone pouvait être réparé facilement. Donc, il y avait beaucoup de pression à Apple. Donc, le revirement est complètement inattendu. Mais dans un monde où tout le monde est... où on s'en va vers le mieux, c'est une bonne nouvelle.
Gaël, est-ce que tu penses qu'Apple va vendre ses appareils, enfin ses kits de réparation à des prix raisonnables? Est-ce que tu crois au Père Noël, Gaël? Est-ce que tu crois?
Bien sûr. Et il habite pas à côté de chez toi, d'ailleurs, le Père Noël.
Tout à fait. Juste quelques kilomètres au nord, exactement.
Non, il risque de vendre des kits de réparation différents d'un modèle à l'autre, qui soient pas compatibles entre un iPad, un iPhone et un... Ça, c'est sûr. Chacun aura sa version. Mais ils vont dans le bon sens, donc on va pas taper dessus. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis moi je vais lancer ma chaîne tuto, c'est la réparation d'Apple. Non, ça va se lancer, ça, du coup. Il va y avoir plein de chaînes tuto.
Mais tu plaisantes, mais je pense qu'effectivement ça va donner naissance à un écosystème vraiment viable. Qui permettra... Alors, évidemment, tout le monde ne va pas se mettre à réparer son téléphone parce que, bon, tu disais, Pascal, j'espère qu'ils vont faire des téléphones plus facilement réparables. Ça, c'est l'étape 2 du Père Noël. C'est
de l'optimisme.
Ouais. mais par contre, ce que suggère Gaël, des chaînes qui expliquent comment ça fonctionne, comment réparer, des personnes qui vont du coup réparer pour leurs amis, pour leur famille, pourquoi pas les téléphones, ça peut tout à fait exister. Enfin, ça ouvre des possibilités qui jusqu'à maintenant étaient complètement fermées. Et on parle d'Apple, mais ils ont pris un petit peu à revers toute l'industrie parce que, à ma connaissance, personne ne fait ça. Ils se sont tous, en fait, dirigés dans la direction qu'Apple a initiée, hein, avec des appareils moins réparables, moins ouvrables, les batteries plus interchangeables, les trucs collés de partout pour avoir des trucs plus fins, etc. Mais ils ont tous fait ça aussi. Et aujourd'hui, personne n'offre de possibilité de réparer facilement, enfin, même pas facilement, mais de réparer tout court ces appareils de manière autorisée. Et donc, c'est vraiment un coup qui peut-être va initier quelque chose dans l'industrie, parce que tout à coup, de là qu'Apple était le pire des élèves, parce que leurs téléphones sont tellement difficiles à réparer, et bah, tout à coup, ils deviennent le meilleur élève. Et c'est genre, bah voilà, on peut vous vendre. Alors, ça dépend des prix, encore une fois, hein, mais tout à coup, ils deviennent le meilleur élève.
Ma question aussi, est-ce que les gens vont croire qu'il est facile de réparer un iPhone? Et je crois que ce n'est pas... Ça prend un bon doigté, ça prend un minimum de... Donc, si beaucoup de gens achètent les pièces, essaient de réparer, ils vont peut-être faire plus de dégâts que le... Réparer un écran peut se retrouver en un cauchemar où notre téléphone est complètement détruit. Alors, il y a peut-être ça aussi qu'il va falloir bien informer le public. Si... Et d'ailleurs, Apple le mentionne, avant de se procurer le kit, il faut s'assurer d'être capable de faire la réparation.
C'est ça. Mais je crois, tu sais, que quand on parle du droit à la réparation, the right to repair, qui est un gros sujet de société, en particulier aux États-Unis, parce qu'ils vont un peu loin, mais en Europe aussi, comme tu le signalais, Pascal, on ne dit pas que n'importe qui, que tous les appareils doivent être conçus pour avoir la possibilité que n'importe qui puisse les réparer, même sans connaissance. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut avoir le droit et la possibilité, si on s'y connaît, un petit peu comme dans cette culture du montage de PC, de l'ouverture des systèmes informatiques, des systèmes, des écosystèmes comme les ordinateurs personnels, de pouvoir mettre les mains dans le cambouis si on en a envie. Et dans beaucoup d'appareils, c'était pas possible, soit parce que légalement c'était pas permis, même. On parle beaucoup des tracteurs aux États-Unis. John Deere est une marque de tracteurs qui interdit le fait de changer des pièces ou de rentrer dans le système du tracteur, parce qu'ils réservent ça, alors pour plein de raisons, mais ils réservent ça à leurs revendeurs, etc. C'est le cas dans les voitures aussi aujourd'hui, de plus en plus, et toutes ces choses-là. Et la question du droit à la réparabilité est une question de la propriété de l'appareil. Il faut qu'on ait le droit de le faire si on est, si on veut mettre les mains dans le cambouis, comme je le disais. Et c'est ça, en fait, que c'est là qu'Apple ouvre la porte, je pense. Et c'est là que c'est important. Évidemment que notre grand-père qui a du mal à utiliser une application sur son téléphone, il ne va pas tout à coup se mettre à utiliser des ventouses d'accroche sur le téléphone et le truc pour réchauffer la colle pour pouvoir décoller avec la spatule qui passe sous l'écran. Non, clairement, c'est...
Tu sais quoi, je ne suis pas d'accord.
C'est vrai?
Au contraire, je pense que c'est les générations d'avant qui savent plus parce qu'on a eu
l'habitude
d'ouvrir des ordinateurs qui sont peut-être plus manuels. Ils vont peut-être pas utiliser l'application, mais c'est peut-être eux qui vont réparer les iPhones de leurs petits-enfants.
C'est pas vrai, c'est vrai.
Tu vois?
Ouais, t'as pas tort.
Après, je pense que Apple initie quelque chose qui est plutôt malin, qui est plutôt visionnaire. Je pense qu'ils ont très bien compris que les nouvelles générations, hein, nos enfants, ils sont clairement dans de la consommation raisonnée. Ils sont à fond dans l'écologie et dans le recyclage et la réparation de ces appareils en fait partie. Et je pense que s'ils ne vont pas vers là, ils vont perdre toutes ces générations, ces jeunes générations de moins de 20 ans, de moins de 25 ans, qui, eux, sont vraiment très... Enfin, en tout cas, moi, je le vois, hein, mais ils sont très... Sont à fond là-dedans, quoi. Et c'est bien.
Peut-être qu'il y aura effectivement, après une génération perdue pour la réparation, les jeunes générations qui y reviendront. Et je trouve que c'est cool, cette idée de se dire, bah, je peux ouvrir mon appareil, je peux voir ce qu'il y a dedans, je peux changer l'écran si je veux, je peux... Bon, évidemment, ça ne va pas être un truc à customiser, un iPhone, mais au moins comprendre comment ça marche, c'est plutôt cool. Donc, vraiment... c'est une décision assez magique de la part d'Apple parce que, comme je le disais, du plus mauvais élève, ils deviennent le meilleur élève d'un coup. C'est marketingement parlant, c'est hyper malin parce qu'en plus, comme on l'a dit, oui, il y a des gens peut-être de certaines générations ou de certaines sensibilités qui vont s'y intéresser. Mais je pense que la plupart des gens, ils vont se dire « Non, c'est bon, attends, ça coûte trop cher, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. » Au pire, on l'amène chez un réparateur et il y avait déjà un programme de certification pour les réparateurs. Donc, ça va pas leur coûter grand-chose. Et en plus, ça écarte, là, d'un revers de la main, des menaces, entre guillemets, de législation qui commençaient peut-être à leur faire peur. Donc, comme toujours, Apple, c'est des malins. Un truc important qu'il faut ajouter avant d'avancer dans les sujets tech, c'est la question du moment. Est-ce que vous préférez avoir... Écoutez-moi bien, parce que c'est important. Il y a des sujets sérieux parfois qu'il faut aborder et qu'il faut savoir comment traiter avec tact, avec délicatesse, mais pour lesquels les réponses sont essentielles pour certaines personnes. Comme moi, par exemple, est-ce que vous préférez avoir 10 cafés dans la semaine et 0 Patrick dans votre podcast ou alors 9 cafés et puis un podcast de Patrick qui arrive le mardi après-midi ? Hein ? Ça, c'est une question importante, messieurs, dames. Et à la réponse que vous allez donner s'associe le choix, en fait, de soutenir ou non le Rendez-vous Tech sur Patreon. Parce que si vous vous dites, tu sais quoi ? Mon 10e café, il est vraiment important et même si ça veut dire que j'ai pas mon podcast de Patrick, c'est pas grave, je prends mon 10e café. Eh ben très bien, pas grave, vous écoutez le Rendez-vous Tech sans payer quoi que ce soit, aucun souci. Mais si vous vous dites, ouais, pour un café, si je pouvais avoir un podcast de Patrick à la place d'un café ou si j'avais ce choix, ben je choisirais le podcast. Eh ben là, je vous dirais... Peut-être penser que pour le prix de ce café, vous pourriez devenir patriote. Qu'est-ce que ça fait d'être patriote ? D'une part, ça fait plaisir à vous et à moi. Donc, je crois que tout le monde y gagne. Et en plus, ça fait plaisir à ceux qui écoutent le podcast sans être patriote. Donc, ça fait plaisir vraiment à tout le monde. Je crois même que d'une certaine manière, par osmose de mélange des esprits, même ceux qui n'écoutent pas le podcast, ça leur fait plaisir. Donc, vraiment, ça fait plaisir à tout le monde quand vous devenez patriote. Mais en plus de ça, ça vous donne droit à... plein de petits bonus comme les émissions sans pub, même sans ce petit morceau de sponsor au milieu. Vous pouvez encore écouter le podcast public hein, si vous souhaitez quand même avoir ces morceaux d'anthologie de marketing. Vous avez aussi donc zéro pub dans l'émission. Vous avez les time codes pour pouvoir sauter à la partie qui vous intéresse. Vous avez les contenus bonus, les éditos dans lesquels je vais passer un petit peu derrière le micro et je vous explique comment se passe ma vie professionnelle, un petit peu personnelle parfois. Bref, tout ça en plus du fait de se dire... Le podcast existe grâce à moi et c'est une satisfaction et un bonheur pour tout le monde. Donc, si vous préférez 9 cafés et un podcast, c'est la chose à faire, patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans le métavers par les mains? Je sens que je vous fais peur.
Ça, c'est une drôle de question, ça.
Toucher le métavers.
Meta, donc anciennement Facebook, a annoncé travailler sur un gant qui vous fait sentir les choses que vous touchez en réalité virtuelle ou réalité augmentée. C'est un système vraiment intéressant qui est en fait un gant avec des petites capsules pleines d'air qui peuvent se gonfler ou se vider. Et quand elles se gonflent, ça va mettre une pression sur vos doigts, différentes parties de votre main, qui reproduit réellement la... Yoda dit « Depuis que je suis patriote, mes cheveux repoussent ». Alors, ce n'est pas garanti scientifiquement, mais clairement, chez certains, ça s'est produit. Donc, vous ne pouvez pas savoir quel bénéfice ça va vous apporter. Faites-le et puis vous verrez. Bref, les gants haptiques de Meta sont vraiment intéressants. Avec ce système de capsules qui se gonflent d'air, ça reproduit de manière assez fidèle, selon les journalistes qui l'ont testé, la sensation de toucher. Et aujourd'hui, ils ont une quinzaine de petites bulles d'air par doigt. Ils voudraient créer des gants, c'est vraiment un prototype, on est à des années du lancement du truc, mais ils voudraient créer un appareil, un gant, avec des centaines, peut-être des milliers de capsules. Et alors, pour les plus fantaisistes d'entre vous, on imaginera évidemment des combinaisons à la Ready Player One ou tous ces films de science-fiction, où on a une combinaison complète qui reproduit des sensations tactiles. Peut-être pour le meilleur et surtout pour le pire, mais le truc existe à l'état de prototype et, selon les journalistes, donne quelque chose d'intéressant. Je suis très curieux de voir ce que ça donne. J'imagine que vous aussi, bien sûr, Pascal et Gaël, vous dites « je veux mettre ce gant dès que possible », n'est-ce pas?
Je te laisserai commencer d'abord, Patrick.
Pascal, vas-y.
L'hygiène du gant est une grande question au Canada. On joue beaucoup au hockey avec des gants qui sentent pas très bon après quelques utilisations quand on transpire à l'intérieur. Il faut que ce soit bien ajusté, évidemment. Donc, ces gants-là vont probablement être personnels. Et puis, je lisais dans l'information qu'on prévoyait avoir plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers de petits actuateurs comme ça pour augmenter les sensations. Donc, ça risque d'être beaucoup plus que les mains qui vont être stimulées. Et on imagine tout de suite les utilisations pour lesquelles ça va être utilisé en premier si on a des stimulations un peu partout. Ça commence par P et ça finit par orno.
Mais tu sais quoi, le porno est l'utilisation première de toute technologie qui va réussir. Donc, ça serait presque une bonne chose pour la technologie. Je ne sais pas si la technologie en elle-même est une bonne chose, mais ça serait bon.
L'hygiène de ce truc, très important.
Après, il faut que ça reste personnel, on est d'accord.
Très personnel.
Gaël, partages-tu l'enthousiasme de Pascal?
Ah mais complètement, forcément. Non, moi j'attends la chaussette.
Ah, les massages de pieds, c'est ça.
Bah, bien sûr, bah, mais oui, complètement. Évidemment.
Ouais. Cette sensation de marcher dans des champs de blé.
Attends, merveilleux.
Ah, avec
mais
oui.
Dans le sable.
Comme les tu sais, ces films où ces moments de paix où tu marches dans le champ de blé, tu passes ta main sur les épis et il y a le soleil couchant derrière, c'est le calme total. Bon, on plaisante, mais franchement, si ça fonctionne, la réalité virtuelle permet la présence par la vue et l'odorat, par la vue et l'audition. Ça permet la présence comme ça. Le toucher est un sens extrêmement important, évidemment, pour perfectionner la présence. Si on attrape quelque chose et qu'on sent que on peut vraiment le toucher, bah ça augmente l'illusion et ça serait une étape extrêmement importante. Et le plus intéressant là-dedans, c'est que selon les thèses d'un journaliste indépendant, bah c'est plutôt convaincant quand il touche de la porcelaine, il attrape un truc. Bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Je pense que au-delà de la plaisanterie et de la question du porno que tu disais un peu en plaisantant mais qui est évidemment importante, ça ouvre encore les possibilités de ce type de technologie, quoi. Et pas de manière anecdotique si ça fonctionne.
Et ce qui est bien, c'est que la suggestion est très importante en réalité virtuelle. On n'a pas besoin d'avoir une sensation parfaite, simplement d'avoir le son, l'image et une sensation du toucher qui est peut-être approximative est assez pour tromper le cerveau. Et donc, ça va être probablement suffisant pour amener à un niveau très, très supérieur la sensation de téléprésence ou la sensation de toucher quelque chose. Pour de l'entraînement des employés, par exemple, ça peut vraiment donner un bon, une bonne rétroaction qui va aider quand on va faire les vrais gestes par la suite.
Écoute, moi j'ai hâte que je puisse proposer à tous les patriotes des sessions de serrage de main avec Patrick en gants virtuels et on s'arrêtera là. À moins que, tu sais, il y aura peut-être de nouvelles opportunités commerciales pour les patriotes qui donneront un peu plus d'argent. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. OnlyFans a de beaux jours devant eux. on va s'arrêter là. Je serai trop âgé de toute façon quand ça arrivera tout ça. Parlons un peu de cyberharcèlement, tiens, un sujet un petit peu plus sérieux.
Bonne transition.
Le lien est parfait, Patrick.
Ouais, le pire, c'est qu'effectivement, ça peut tout à fait avoir des conséquences qu'on ne mesure pas. Le métavers en général, même si on met de côté la question des gants haptiques, le métavers en général ouvre tout un nouveau champ d'inquiétude dans ces domaines. Et déjà qu'on n'arrive pas bien à juguler les problèmes avec notre Internet d'aujourd'hui, dans le métavers, ça risquerait d'être particulièrement ardu. Mais Emmanuel Macron a promis une appli pour transmettre des captures d'écran plus facilement. Alors, c'est déjà possible légalement d'envoyer des captures d'écran, mais de le faire par une appli pour des questions de harcèlement pour qu'on puisse enquêter plus facilement, avoir les pièces, etc. etc. Et bah, du coup, on a la chance d'avoir Gaël dans l'épisode qui connaît un petit peu ces sujets. Est-ce que tu crois que c'est une idée crédible, valable ? Est-ce que ça sert à quelque chose, en gros ? Ou est-ce qu'une app pour envoyer des captures d'écran, alors on ne sait pas très bien à qui encore, mais il y a des autorités qui s'occupent de ces choses-là, il y a un numéro de téléphone aujourd'hui qui existe pour ça. Est-ce que ça peut vraiment avoir une utilité d'avoir une application pour envoyer les captures d'écran? Ou c'est un petit peu gadget, à ton avis, Gaël?
Écoute, l'idée de dire qu'il faut faire quelque chose, c'est déjà un pas, c'est bien. Effectivement, une appli qui envoie des captures d'écran, je pense que des captures d'écran, un téléphone le fait très bien tout seul. Après, si ça facilite de savoir à qui il faut l'envoyer, je pense que c'est ça la vraie question. C'est une fois que t'as tes éléments, c'est pas tellement l'envoi de la capture d'écran, c'est à qui tu l'envoies. Qu'est-ce que tu en fais? Et c'est surtout les conseils qu'on peut te donner. Et finalement, c'est au-delà de l'appli et au-delà de l'envoi de la capture d'écran, c'est tout ce qui va autour. C'est tout l'accompagnement, c'est tout le suivi, c'est tout éventuellement le lien. Je sais pas du tout comment elle va être faite, hein, mais tout le lien qu'il peut y avoir peut-être entre des parents, des enfants, peut-être des alertes auprès d'adultes pour des enfants qui ne savent pas à qui s'adresser et qui n'ont pas envie d'en parler avec leurs parents. Donc il y a plein de choses qui peuvent être très intéressantes. Après, là, en tant que telle, la façon dont ça a été annoncé, une appli qui envoie des captures d'écran, bon, j'avoue que ça ne fait pas rêver comme ça.
Mais c'est un petit peu...
Il y a plein d'autres choses derrière.
Bah, le truc... auquel ça me fait penser, enfin, il existe déjà un numéro de téléphone qui est le 3018, quand on a des problèmes de harcèlement, qu'on peut appeler.
Oui.
C'est un petit
Mais
peu la même
chose,
finalement.
Les enfants n'appellent pas. Non, ouais. Non, les enfants n'appellent pas. Les enfants D'accord. détestent parler. Les enfants, déjà, ils ont besoin éventuellement d'un chat. Ils ont besoin de rester anonymes. La voix, pour eux, c'est encore trop... Ils n'auront pas, on le voit, hein, ils appellent très peu ce genre de numéro. C'est plutôt les gens autour qui vont appeler, mais l'enfant lui-même n'appelle pas. Donc, effectivement, il faut trouver une solution. Effectivement, passer par des chats, passer par une application. Ils ont l'habitude de passer justement par des applications. Donc ça, c'est plutôt intelligent parce que c'est des choses qui est plus facile, enfin, qui leur parle plus. Si c'est comme ça qu'elle est conçue, hein, après, encore une fois, je ne sais pas du tout comment elle va être.
On ne sait pas très bien. Hein,
je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas. Mais...
C'est ça. C'est une direction qu'il a donnée en disant bah, on va passer par une app
pour
envoyer les
C'est ça. A priori, il y a une
commission
qui va être mise en place. Pour être honnête, là, il y a le salon de l'éducation qui va avoir lieu à Paris pendant 3 jours. J'imagine que M. Macron et M. Blanquer vont passer sur les salons. En tout cas, c'est le bon moment pour aller discuter avec tous les acteurs de l'éducation et on en saura un petit peu plus. Et j'espère qu'on pourra, surtout, tous les acteurs qui font partie de ces sujets-là pourront participer et pourront être force de proposition et de conseil. C'est ce qu'on va évidemment porter à travers l'association EdTech France qui réunit tous les acteurs de l'éducation pour proposer, donner des idées, donner notre tour terrain et savoir comment on fait pour trouver des solutions les plus... les plus proches de la réalité des jeunes. Mmh.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, oui, l'appli, pourquoi pas, envoyer des captures d'écran, pourquoi pas, mais presque la partie capture d'écran, ça a l'air d'être presque la partie congrue de ce que devrait faire l'appli. Passer par une appli, c'est plus naturel pour les enfants, quoi.
Exactement.
Très bien, fort intéressant. Quelques petits sujets en plus tout de même. D'une part, Texas Instruments est en train de construire des usines de puces, de fabrication de puces au Texas. Et certains États aux États-Unis, comme le Texas et l'Arizona, sont en train d'offrir de gros avantages à des fabricants de puces pour venir s'installer dans leurs États. On continue évidemment dans le contexte de la... la pénurie, voilà, c'est le terme que je cherchais, de la pénurie de puces dans le monde qui n'a pas l'air de se calmer. Donc, même si la construction des usines prend du temps, on comprend que certains États puissent le vouloir. C'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays du monde, en tout cas en Europe et aux États-Unis, on voit que c'est beaucoup le cas. Je me demande si au Canada, c'est une préoccupation aussi, ou est-ce que vous dites, bon, bah, s'ils font ça aux US, on est quand même bons amis, donc ça nous suffira. Ou est-ce que vous avez cette préoccupation aussi de la question des fabrications de puces et du en local, j'entends.
J'avoue que je ne suis pas au courant que des initiatives de création de puces. Vous savez que le Canada, c'est quand même un petit marché par rapport aux États-Unis. Et oui, nous sommes habituellement en bon terme avec les États-Unis, même s'il y a eu un petit rafraîchissement avec Trump récemment. Mais ça va bien pour l'instant. Donc, j'imagine que c'est toujours... très, très intéressant. Quand je voyais que c'était tout près de... On rapatriait la création des puces aux États-Unis. On va peut-être enfin avoir des produits « made in the USA » qui vont revenir, au lieu d'être seulement conçus en Californie, comme les produits d'Apple, par exemple, mais complètement conçus en Chine, finalement. Complètement construits en Chine, plutôt. Donc, je vois ça d'un très bon œil que la création des puces se rapproche de chez nous, ce qui va aussi peut-être limiter l'impact des frais de transport, de manutention et les délais, surtout pour les entreprises canadiennes qui pourraient avoir besoin de puces.
Parlons un petit peu de Twitter, tiens. Il y a deux choses qui me paraissent intéressantes chez Twitter. D'une part, un truc dont on a entendu parler à un moment et qui a peut-être fait un petit peu moins de bruit qu'on ne le pensait, c'est les lives, en gros, le téléachat sur Twitter ou ailleurs, qui est très populaire dans certaines régions du monde et qui met du temps à arriver chez nous, même si on a déjà vu des initiatives dans ce domaine. Walmart va faire, qui est une grosse chaîne de boutiques de détail aux États-Unis, va faire avec Twitter des lives pour vendre des choses pendant, enfin le 28 novembre, donc ça arrive bientôt. Ils avaient déjà essayé les cyberdeals, c'est un truc de cyberdeals qu'ils vont faire sur Twitter. Ils avaient déjà essayé ça sur d'autres plateformes et ça avait très très bien marché, et ils le feront sur Facebook, Instagram, TikTok, enfin tout ça, YouTube, etc. Et ils vont le faire aussi sur Twitter, donc dans l'instantanéité. Je pense que ça peut effectivement... C'était sur TikTok qu'ils l'avaient essayé. Ils avaient eu 7 fois plus de vues qu'ils ne l'avaient pensé. Et ça avait été ça avait connu un grand succès. Et à côté de ça, on a eu l'annonce que le S&P Standard & Poor's 500, donc le top des 500 sociétés les plus chères du marché aux États-Unis. Le S&P 500 s'est associé à Twitter pour créer un index du sentiment Twitter des sociétés du Dow Jones, on va dire, en étudiant la manière dont les gens tweetent à propos de ces sociétés, avec, vous savez, une sorte de petit hashtag avec le dollar, qui est le cashtag, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et qui vont donc avoir, en surveillant Twitter, en partenariat, un sentiment Twitter pour les grandes sociétés. Alors, à quoi ça va servir? C'est aux géants de Wall Street de nous le dire. Mais je trouve que ces deux initiatives sont assez intéressantes parce que ça montre que Twitter est en train d'essayer de faire des choses un petit peu différentes de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et en particulier, le live shopping sur Twitter, on a une vidéo qui est diffusée en direct et juste en dessous, le moyen simple de, d'acheter quelque chose en quelques clics, surtout si on a nos informations de paiement sur Twitter, ça peut donner... Alors, des bonnes choses et peut-être des achats impulsifs un petit peu regrettés après. Mais je trouve l'idée intéressante, moi.
À des heures tardives de la nuit, on va se retrouver à acheter des produits de beauté, des couvertures chauffantes et des trucs étranges.
Exactement.
Patrick, l'achat comme ça, c'est quelque chose qui est énorme. Il y a une entreprise montréalaise qui s'appelle LiveScale qui ont des bureaux à Paris. J'ai eu l'occasion de les interviewer à quelques reprises. Et puis, il semble qu'en Asie, c'est la folie furieuse. C'est l'étape supérieure du téléachat combiné avec l'effet des influenceurs. Vous savez, les influenceurs qui donnent des conseils de maquillage et tout. Et là, non seulement on a des conseils de maquillage et des influenceurs qui sont jolis, sympathiques, belles et tout, et on peut acheter ce qu'ils utilisent, ce dont ils font la promotion instantanément. Il paraît que ça atteint des records de vente et d'impact. Et de donc, c'est un phénomène qui, moi aussi, je vois ça et je me dis jamais je ne vais passer ma soirée à regarder ça. Mais il semble qu'en Asie, c'est parti très, très fort et ça va immanquablement arriver ici. Et puis, comme c'est très divertissant, c'est comme formule, ça, des achats impulsifs, quelques dollars par-ci, quelques dollars par-là, et puis...
Tu sais, rajoutes les gants, et puis après...
les gants de méta.
les gants à l'odeur étrange.
C'est ça. Mais hey, tu dis ça, Pascal, tu dis que ça ne serait pas forcément intéressant. Moi, je me demande si, par exemple, alors peut-être pas pour toi spécifiquement, Pascal, mais... Si moi, je lance un live et je me mets à parler des appareils, des accessoires sur mon PC que j'utilise et qui me sont très utiles. Je sais que Jérôme, notre ami de Nowtech, fait le Twitchacha où il parle justement de certains trucs qu'ils ont testés sur la chaîne ou d'appareils qu'ils utilisent. Si moi je te dis mon Stream Deck il est sympa, ma webcam c'est tel truc, j'utilise une interface audio Focusrite, ce genre de truc, ou mon micro c'est un HPR 40, ça peut aussi, si ça touche spécifiquement, parce que c'est ça l'intérêt des influenceurs, c'est qu'ils vont parler de choses qui t'intéressent toi spécifiquement, que tu leur fais confiance et que donc tu vas suivre leur avis et qu'ils vont t'influencer. Et donc, si c'est des choses qui t'intéressent toi spécifiquement, peut-être que là, ça changerait de perspective par rapport effectivement à ce dont on entend parler et dans les succès en Asie. On parle beaucoup d'influenceuses beauté qui d'ailleurs vendent très bien parce qu'il y a plein de gens qui les suivent. Tu vois, c'est juste que ce n'est pas forcément le truc qui va t'intéresser toi spécifiquement. Gaël, tu serais prête, toi, à acheter un Stream Deck parce que je te dis qu'il est bien ou à acheter tel produit de beauté d'une influenceuse ?
T'as utilisé un terme qui est super important, qui est la confiance. Donc, effectivement, parce que j'aurais confiance, parce que je sais que t'es un grand expert sur le sujet, clairement, oui, si j'en ai besoin, je sais que c'est à toi que je ferai confiance et que je l'achèterai. C'est là où c'est petit peu différent avec les influenceurs. Qu'est-ce qu'il faut qu'on achète du coup, tu nous dis?
je ferai un live sur Twitter pour vous parler de tout ça.
Mais les influenceurs, le problème, c'est que ils n'ont pas forcément une véritable expertise diversifiée de plus en plus. Ils deviennent très généralistes et ce ne sont que des panneaux publicitaires. Ils ont à peine parfois utilisé ou essayé les produits dont ils parlent. Et c'est là où ça devient plus gênant parce que du coup, le rapport de confiance n'est plus là. Et c'est juste parce que c'est des gens, comme disait Pascal, qui sont beaux, magnifiques, sympathiques, qui parlent très bien, mais qui finalement n'ont pas l'expertise. Et c'est là où il y a un problème.
Écoute, je trouve que pour une partie de la description, ça correspondait bien à ce que je fais, beau, magnifique, effectivement. Donc,
non, Patrick, c'est le côté crédible qu'on t'attribuait.
Le reste
n'importe peu. Ce qui est important, c'est ta crédibilité mise là-dessus.
T'as fait les deux en même temps.
Ok, très bien, merci. On essaye de se rattraper aux branches comme on peut. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est, ça revient un petit peu tous les ans, tous les quelques années, il y a quelqu'un qui va écumer les listes de mots de passe qui ont leaké, qui ont été hackés chez différents fournisseurs de services divers qui vont faire des méga listes et qui vont les compiler en faisant des listes des mots de passe les plus populaires. Et ben là, Numérama nous parle d'une liste des mots de passe les plus populaires en France en 2021. Et ben vous savez quoi ? C'est vraiment toujours pas très beau. Le mot de passe le plus populaire n'a pas changé. C'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mot de passe, le deuxième mot de passe le plus populaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors attention, hein, on est monté à 7, 8, 9. Pour trouver à partir d'un hash ce genre de mot de passe, il faut aujourd'hui à des outils spécialisés, genre une seconde à peu près, pour retrouver votre mot de passe. Hein. Ça continue comme ça dans la liste. AZERTY.
On en parle du 1, numéro 2, 3, 4, 10 5. Ou pas ?
Du numéro 10 ? Vas-y, vas-y.
Marseille.
Pourquoi ?
Marseille.
Marseille.
C'est vraiment étrange parce qu'il y a des trucs. Alors, il y a des chiffres, il y a AZERTY, il y a des prénoms. Tiffany, j'imagine que c'est les gens qui mettent le nom de leur enfant et que Tiffany est populaire ou je ne sais pas. Il y a Loulou. Ah. Moi, j'appelle beaucoup mon fils Loulou. Je vous rassure, mon mot de passe, ce n'est pas Loulou. Mais Marseille. Alors là, soleil en position 13, password évidemment en position 16, chouchou, Nicolas, 1-1-1-1-1-1, etc., etc. Bon, voilà.
Je suis content de voir soleil parce qu'au Québec, un mot de passe étrangement qui est utilisé souvent, c'est 1-2-3 soleil.
Ah oui?
Et je me suis toujours demandé d'où ça venait.
Eh ben, 1, 2, 3, soleil, c'est le jeu des auquel on joue quand on est enfant.
Tu sais, ah, ben oui.
Ben voilà.
C'est ça. Voilà.
Tu vois, on dit aux gens 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va pas. Donc, ils disent OK, 1, 2, 3, soleil. Très bien.
Voilà. Ou soleil 1, 2, 3. C'est l'autre aussi. Version.
Oui, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que les mots de passe sont en fait souvent craqués par des bibliothèques de mots de passe, dans lesquels figurent bien sûr les mots de passe les plus utilisés. En fait, c'est une question de tous les mots de passe qu'on va tester quand on a un hash. Donc, on code le mot de la même manière. On ne réussit pas à trouver le mot de passe immédiatement. On ne peut pas le lire. Mais par contre, on a le hash, le code résultant après chiffrement. Et donc, on essaye un mot de passe, on le chiffre de la même manière et on voit si ça correspond au code. Et bien sûr, on ne peut pas faire l'opération dans l'autre sens, mais on a des bibliothèques de mots de passe immenses et on peut tous les tester à des vitesses hallucinantes parce que les ordinateurs aujourd'hui peuvent le faire très très vite. Et donc, on a des bibliothèques qui sont constituées évidemment des mots de passe les plus communs, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais il y a aussi tous les prénoms de la Terre, tous les mots de l'annuaire, tous les mots du dictionnaire, mais tous les mots. C'est-à-dire que, en fait, pour tester tous ces trucs-là, ça prend, pour tester le dictionnaire entier, ça prend quelques minutes, on va dire, j'en sais rien, mais ce genre de choses. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre des mots de passe aléatoires, parce que les mots existants cohérents, ils sont tous testés très, très vite. Donc, bon, ça, c'est quand on a des listes qui leak et quand on a le hash quelque part, on peut le retrouver. Si on a votre identifiant avec et on retrouve le mot de passe, on peut aller se connecter sur le site directement sans avoir à faire le test sur le site tout ce nombre de fois, ce qui serait bloqué, évidemment. Mais bon. Bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout de ce formidable épisode du Rendez-vous Tech. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir prêté votre expertise et votre bonne humeur. C'était un excellent moment passé en votre compagnie. Pascal, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
Sur mon site web, pascalforgette.com. Aussi sur le podcast Une Tasse de Tech, qui ressemble un peu à Rendez-vous Tech, avec
mais
une
mieux.
Touche montréalaise, touche start-up. Alors, évidemment, c'est incomparable, mais Une Tasse de Tech ressemble un peu vaguement sur la thématique générale à Rendez-vous Tech. Alors, si les gens peuvent, ça pourrait intéresser certaines personnes, ça me ferait plaisir. Et puis, sur Facebook, Twitter, ça me ferait plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Qui sait, je pourrais faire de la vente en direct un jour.
Magnifique, tes gants méta usagés.
Oui, pour le parfum. Ce parfum de Pascal.
Mon Dieu, cet épisode se termine un peu plus
comme
mal.
Odorama.
Comme il a commencé.
En odorama.
c'est un sens qui manque encore malgré les tentatives au cours des années et c'est peut-être pas plus mal. Gaël, où peut-on te retrouver sur Internet ? Dis-nous tout.
Écoute, sur tous les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, plutôt sur le nom de la société qui est Cood, COOD.fr. Donc, c'est par là qu'on me retrouve et c'est moi qui suis derrière. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, surtout si vous, en plus, vous avez des problèmes de cyberharcèlement avec vos enfants, on en parle beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, sinon, GM Girardot, c'est mon Twitter, mais je suis plutôt derrière Cood.fr. Voilà,
plutôt
voilà.
Derrière Cood, très bien. Cood.fr, merci à toi. Pour ma part, c'est notepatrick.com pour retrouver tous les liens vers tout ce que je fais, que ce soit mes réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, Instagram, mais aussi le Discord où on passe de très bons moments tous ensemble à discuter de toute la tech, du jeu vidéo et de plein d'autres choses aussi. Donc, le lien vers le Discord est sur notepatrick.com. Vous avez aussi le lien vers le Twitch où on est tous les mardis midi pour le rendez-vous tech, les jeudis midi pour le rendez-vous jeu. Et bien sûr, Patreon, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Vous vous souvenez de la question, hein ? C'est 10 cafés et pas de Patrick ou 9 cafés et un Patrick ? Il y a des gens qui disent 10 cafés et 10 Patrick. C'est possible aussi, oui. Mais c'est pas obligatoire. Mais si vous estimez que Patrick, dans vos oreilles pendant une petite heure, vaut bien le prix d'un café, patreon.com/rdvtech, je vous remercie tous et toutes de participer au soutien de l'émission. patreon.com/rdvtech. Merci à tous et à toutes. On vous fait de grosses bises et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.